Je vous présente maintenant notre conférencier de ce soir, Laurent Grison, qui est né en 1963. Il est chercheur au CNRS à la Maison de la Géographie de Montpellier, enseignant d'histoire des arts et de géographie. Il a une agrégation d'histoire, un DEA d'histoire contemporaine et il est docteur en géographie. Ses spécialités, ses recherches portent sur les figures géographiques dans l'art et analyse spatiale des productions artistiques occidentales, représentation de la ville, paysage urbain dans les arts, utopie, histoire de la diplomatie culturelle. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Il a également écrit des articles pour des journaux et des revues tels que Phosphore, Le Monde de l'Éducation, Mappemonde, dont il est membre du comité de rédaction, Alternatives économiques. Il est l'auteur de l'ouvrage « Les figures géographiques dans l'art occidental » à paraître lundi 4 novembre aux éditions Jacqueline Chambon. Et il est membre de l'équipe de direction du Festival international de Radio France, manifestation musicale depuis 1992. Je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat avec notre public. Merci.
Merci beaucoup. L'angle de mon regard invite à l'éventail des mondes. Cette phrase du poète Henri Pichette résume à mes yeux le rôle de l'artiste. L'artiste est un créateur de mondes dans une dynamique qui relève de la poiesis grecque éclairée par la philosophie aristotélicienne. L'artiste donne à voir, selon la belle expression de Paul Éluard, il donne à voir le monde. Le géographe essaie, lui, de donner à concevoir le monde. L'homme est au centre de la géographie comme de l'art, et ma démarche vise à établir un champ de pertinence entre les deux. Science de l'homme et de la société, la géographie est donc ici une science de l'art. Production humaine, l'art relève de l'esthésie. C'est aussi une entreprise profondément sociale qui, si j'ose dire, vient d'une société et va vers une société. Cet aspect de l'art intéresse beaucoup le géographe car il a pour fonction d'étudier l'homme acteur de l'espace tout autant que l'homme producteur d'espace. Même si mon postulat premier est avant tout que l'art est une écriture créative de l'espace. Les différentes formes d'art n'entretiennent pas avec l'espace les mêmes relations. Mais il me semble qu'aucune forme d'art n'est plus spatiale qu'une autre par principe. Rien n'empêche donc de considérer les arts visuels et les autres formes de création avec une même méthode rationnelle. Max Jacob écrit dans la préface à son recueil de poèmes intitulé « Le Cornéadé » en 1916 que « Tout ce qui existe est situé, tout ce qui est au-dessus de la matière est situé, la matière elle-même est située ». Si le travail de l'artiste est situé de diverses manières, il l'est avant tout dans l'espace et le temps. La production artistique est dans le temps court défini par Fernand Braudel, celui de son époque et de sa société. Elle est aussi dans le temps long, celui de la civilisation, des symboles et des mythes. C'est pourquoi je prends en considération les correspondances et les tensions que l'artiste établit et parfois engendre entre l'espace, le temps et la mémoire. Je dois ajouter que je me situe moi aussi, bien évidemment, dans une époque et un espace donné, et que cette situation influe sur ma manière de penser et de faire. La question centrale de mes recherches est la suivante. Comment la création artistique use-t-elle des figures géographiques et quel sens leur donne-t-elle dans l'art occidental ? Je dois d'abord vous préciser ce que je nomme figure géographique. Figura en latin signifie dessin, représentation visuelle d'un objet, et par extension, sa forme. La figure géographique, le carrefour, la bifurcation, le pont par exemple, est un élément fondamental de l'espace. C'est un corème, pour reprendre une expression employée par le géographe Roger Brunet en 1980. Modèle de la forme, la figure a aussi une fonction de structure. Elle est toujours à la source d'un questionnement, d'une problématique du sens. Nervure du réel, la figure entretient des liens intimes avec l'espace géographique et ses lois. Les figures sont des pièces de l'espace, un espace réel ou imaginaire à partir du réel. Utilisées dans les différentes formes d'art, les figures sont souvent des métaphores vives, pour reprendre une expression de Paul Ricoeur. Des métaphores qui font plus qu'illustrer. Elles déterminent le sens des représentations. Le corpus que j'utilise est composé d'œuvres de différents domaines artistiques. Peinture, littérature, musique, cinéma aussi. Le tout de la Renaissance à aujourd'hui. Un corpus est toujours subjectif. Je crois que seule une certaine adhésion intime et sensible aux œuvres ouvre un déchiffrement possible de celles-ci. Je fais cependant en sorte d'éviter deux écueils. Le premier serait la surinterprétation. Ce qui pourrait être éclairé par une phrase de l'historien d'art Georges Didier Huberman. On demande trop peu à l'image quand on la réduit à une apparence, on lui demande trop quand on y cherche le réel lui-même. Le second écueil serait l'utilisation d'une sorte de koiné, d'une vulgate géographique pour parler de l'art, ou à l'inverse, d'une vulgate d'histoire de l'art pour parler d'objets géographiques. Je fais en sorte de choisir, dans la diversité de la matière artistique, des œuvres qui font sens, des œuvres qui entretiennent un commerce avec ce que Merleau-Ponty appelle la chair du monde. Je retiens des temps et des lieux de production, comme le XVIIe siècle hollandais, je vous le montrerai, qui sont révélateurs d'un usage signifiant des figures, révélateurs de ce que je pourrais nommer la logique des figures géographiques. Je nomme espace-temps fort ces périodes et ces lieux de référence. Ainsi apparaît une typologie spatio-temporelle de l'usage des figures géographiques dans l'art. Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde. C'est ce qu'écrit Ludwig Wittgenstein dans son Tractatus Logico-Philosophicus en 1921. Ce philosophe définit le monde comme un ensemble de faits indépendants les uns des autres. Des faits qui sont résolubles en un état de choses, je cite, dont les liaisons forment la composition logique du monde. Selon lui, la structure formelle du langage correspond à celle du monde. Pour moi, les figures géographiques sont liées au langage des artistes dans les frontières de leur monde. On peut en effet constater que les figures sont associées à un nombre fini de signes et de valeurs. Des signes et des valeurs qui sont repérables dans des contextes déterminés. C'est cette finitude, cette clôture des possibles qui fonde mon analyse structurale. Je fais l'hypothèse qu'il existe des systèmes combinatoires de figures géographiques dans l'art occidental, des systèmes que je qualifie de polyphoniques. Je constate qu'au-delà des dynamiques spatio-temporelles et des évolutions sociétales, ces systèmes montrent une certaine constance, ce qui n'exclut évidemment pas un possible glissement du sens des figures et des variants. La connaissance des règles de catalyse, j'emploie ce terme au sens linguistique, permet aussi à l'artiste, s'il le souhaite, de les transgresser. Dans mes recherches, je me concentre avant tout sur les figures de l'échange, échange entre les lieux, les personnes, l'homme et le monde. Parmi les nombreuses figures de l'échange, je privilégie notamment l'une d'entre elles, le carrefour, qui est fondamental en dépit de son apparente banalité. J'insiste à travers son étude dans l'art sur les notions éminemment géographiques de convergence, de divergence, de rencontre, de seuil, de choix. C'est à partir de quelques exemples d'usage de cette figure que je vais vous exposer ma démarche aujourd'hui. Permettez-moi d'abord d'évoquer les quelques notions indissociables de la figure du carrefour, car elles sont indispensables à connaître avant d'aborder les œuvres elles-mêmes. Matériellement, le carrefour est, comme l'écrit le Trésor de la langue française de 1606, un endroit, est-ce ville ou village, où quatre rues se rapportent et font tête en carré l'une à l'autre. S'il a généralement quatre branches, le carrefour peut en avoir davantage. Il suffit de penser à la place de l'Étoile à Paris. Le carrefour permet de changer ou de ne pas changer de direction. Il facilite la communication et les échanges. En ville, la place, qui est évidemment un carrefour, est le lieu des ragots où l'on est facilement tympanisé, c'est-à-dire ridiculisé en public. Molière le montre bien. C'est pourquoi Montesquieu écrit dans les Lettres persanes en 1721 la phrase suivante. Nous relevâmes il y a quelques jours une faute de grammaire si grossière qu'on en fit des farces par tous les carrefours. Le carrefour, espace généralement ouvert, est le lieu du théâtre de foire, du spectacle, des exécutions capitales, des amours vénales. C'est aussi un lieu du heurt imprévu, de la collision, de la crise au sens grec. C'est là qu'on croise les autres et qu'on peut se croiser soi-même et rencontrer son destin. Ce n'est pas un hasard, je crois, si c'est un carrefour qu'Œdipe tue son père Laïos. Le carrefour peut être un lieu mystérieux, voire dangereux. Les embuscades y sont fréquentes, comme le montre un tableau de Paul Bril, l'attaque à main armée dans un bois. Première moitié du XVIIe siècle, ce tableau se trouve au Louvre. On trouve la même caractéristique de la figure dans La main de gloire, une nouvelle de Gérard de Nerval, en 1832, qui met en scène un bandit bien nommé, le capitaine Carrefour. Venant d'un chemin, on doit toujours choisir au carrefour entre trois directions possibles. Montaigne, dans ses essais en 1580, parle d'ailleurs d'un carrefour à trois chemins. Ce qu'il comprend comme le lieu de l'expression métaphorique d'un choix nécessaire. Il en tire d'ailleurs une belle parabole sur la force de la raison, ce qui lui permet de faire l'apologie de Raymond de Semonde et de sa théologie naturelle. Voici aussi ce que Balzac fait dire à l'un de ses personnages, Jacques Collin, ex-bagnard, alias Vautrin, alias Trompe-la-Mort, Carlos Herrera et d'autres. C'est dans Les splendeurs et misères des courtisanes en 1838. « Je crois tellement en vous que je veux être entièrement à votre disposition, » reprit-il avec l'humilité d'un pénitent. « Vous me voyez entre trois chemins, le suicide, l'Amérique et la rue de Jérusalem. » Au carrefour, plusieurs directions sont donc possibles. Je constate cependant que les représentations suggèrent souvent ce que je nomme un mouvement linéaire dirigé. Une voie, celle qui fait face aux voyageurs, est généralement privilégiée. C'est peut-être ce qui est à rapprocher de la vieille expression « ne pas y aller par quatre chemins ». Cette expression signifie « agir franchement, sans détour », c'est-à-dire choisir sans hésitation un seul des quatre chemins au carrefour. Le bon choix est généralement le chemin droit, celui du bon chrétien. Voici pour finir cette courte introduction ce qu'écrit Robert Desnos en 1946 dans L'honneur des poètes. Or, qui de nous n'imagine ou pressent ombre vaguant hors des géométries, des univers échappant à nos sens? Au carrefour de routes en oblique, nous écoutons un son de corps toujours renaissant, toujours identique. Dans les structures symboliques de l'imaginaire occidental, le carrefour de routes en oblique est le lieu sacré où l'on imagine ou pressent des univers échappant à nos sens. Ces mots prennent un sens très fort sous la plume de Robert Desnos, résistant tué par les Allemands à Térésine, qui dénonce les horreurs de la guerre et rêve l'espoir porté par le son du corps toujours renaissant. Voici un premier exemple d'usage de la figure du carrefour dans une œuvre picturale. C'était la précédente. Voilà. Non, c'était la précédente, s'il vous plaît. Il s'agit de l'allée de Middelharnis. C'est un tableau invisible, semble-t-il. Le voici. Le voici. Bon, la reproduction n'est pas très bonne, mais je vais essayer de vous la rendre un peu vivante. C'est un tableau de Meindert Lubbers dit Obema, 1638-1709, un peintre hollandais influencé par Van Ruysdael. C'est une toile de 1689, elle se trouve à la National Gallery de Londres. Middelharnis est un bourg qui se situe sur la côte nord d'une île de la Hollande, à l'embouchure de la Meuse. Il est vu ici depuis le sud-est. Un carrefour à quatre branches est nettement figuré au premier plan. Vous avez ici donc, une voie centrale. Ici, vous voyez très mal, mais vous avez un chemin vers la gauche, légèrement dissimulé. Et vous avez une autre voie à droite. Imaginez ce paysage de dessus et vous aurez la forme du carrefour quasi parfaite. La route principale, bordée d'arbres plantés avec soin, mène au bourg, droit devant. Obema peint un paysage rural typiquement hollandais, sans relief. Les canaux rectilignes rappellent une gestion de l'eau dont les Pays-Bas sont fiers. Les champs sont bien délimités. On imagine volontiers la prospérité de Middelharnis. Obema semble vouloir faire l'éloge du quotidien. J'emprunte cette expression à Svetan Todorov. Il fait aussi, si j'ose dire, l'éloge d'un territoire sagement ordonné. L'automne charge le ciel de nuages aux formes variées. Un vent d'ouest imprime un léger mouvement à la végétation. Le ciel est très présent, mais c'est l'espace humanisé et ses marques précises, comme les repères d'une carte, qui concentrent toute la minutie d'Obema dans ce tableau. Le peintre ajoute au paysage rural des personnages pour introduire l'échelle humaine et suggérer les activités sociales. Au loin, ici, il y a un groupe de personnages qui se rend au bourg, une allusion discrète à l'activité commerçante de Middelharnis. Sur la droite, un homme est occupé à tailler des arbres dans une pépinière. Au centre, et cette fois vous le voyez, un chasseur marche vers nous, un chien à ses côtés. Ce personnage exprime certainement la valeur sociale de la chasse. Utilisant les lois de l'optique bien connues depuis la Renaissance, Obema place le point de fuite directement en face de notre regard. Il attire notre œil à l'intérieur du tableau, sur la route principale qui conduit justement à Middelharnis. Nous sommes exactement en face du carrefour, qui est une figure d'appel, une figure fatique. Il incite le regard du spectateur à se diriger dans l'œuvre selon un trajet qu'il prédétermine savamment, selon une mécanique de la figure. Le carrefour est également ici une figure d'ouverture, une figure dynamique. Pourquoi ? Parce qu'il nous donne, selon un code d'attente, le désir d'explorer l'image, de dévoiler l'espace et d'aller jusqu'au bourg. L'espace à première vue dégagé ne se laisse pénétrer que petit à petit, selon le parcours de notre œil. Obema joue sur la dialectique cachée, dévoilée. La figure géographique est ici heuristique. Elle permet la découverte du territoire. Dans ce tableau si bien composé, le carrefour est ce que je propose de nommer un prétexte à géométrie paysagère. Le carrefour représenté, élément réel d'un paysage rural, est employé dans une démarche naturaliste et presque topographique. La figure est évidemment le support de la perspective. Elle exprime l'ordonnancement général de l'espace. Le peintre joue avec le pouvoir de la ligne, des intervalles et des rythmes. Il montre combien la rigueur aime le continu et chasse le discontinu. Il montre combien la géométrie peut structurer, voire transcender l'espace. Obema n'est pas ici peintre moraliste, comme dans d'autres de ses œuvres et dans beaucoup d'autres œuvres de ses contemporains. Il est bien davantage peintre topographe, dans la tradition d'Esaias van de Velde. Ce tableau offre l'image d'un territoire façonné par le collectif. Il présente un espace social dans lequel tout individu a une place désignée, la sienne. Il permet aussi de ressentir le désir d'un espace maîtrisé, d'une société ordonnée et pérenne. La figure du carrefour pourrait ici se lire comme une synecdoque du territoire hollandais. Elle serait alors la partie du paysage par laquelle Obema suggère le tout. Je pense qu'Obema peint ici la quintessence mythifiée du territoire hollandais, en le composant, voire en le surcomposant, à partir du réel. J'utilise ici le terme de surcomposition dans le sens d'une composition voulue par le peintre comme évidemment, au sens étymologique de visiblement, plus vraisemblable que nature. Obema utilise un processus rhétorique qui est une sorte de glissement du réel vers une forme d'abstraction relative. Il se place délibérément du côté de l'andoxa, c'est-à-dire de l'opinion publique, selon un terme aristotélicien. Cet andoxa serait la manière dont les Hollandais conçoivent leur propre territoire. Il donne ainsi à voir une sorte d'épistémé. Je prends ce terme au sens développé par Michel Foucault, c'est-à-dire comme l'ensemble des connaissances et des règles propres à un groupe social à une époque donnée. Il y a ici ce que j'appelle un usage distancié de la figure géographique du carrefour. Le mot « distanciation », vous le savez, appartient au champ littéraire dans lequel il prend un sens très particulier, notamment chez Bertolt Brecht. J'utilise le mot dans un sens différent. Je le définis comme une forme d'éloignement volontaire et mesuré de l'artiste. Un éloignement par rapport au poids conventionnel du symbolique qui pèse d'ordinaire sur l'usage de la figure géographique. Alors, un croquis pour accompagner donc cette description. Je continue maintenant. L'image n'est pas très belle, mais voici en contrepoint une œuvre d'Henri Cartier-Bresson qui s'intitule « Brie, France ». On observe dans cette photographie en noir et blanc de 1968 un thème et une composition proches de ceux choisis par Obema. La figure du carrefour apparaît là aussi au premier plan et structure géométriquement le paysage rural représenté. Cartier-Bresson s'appuie sur le réel, ou plus exactement, sur la manière dont il le perçoit en tant qu'artiste. Il s'appuie aussi sur diverses représentations de la figure du carrefour dont il a connaissance. Peut-être utilise-t-il celle d'Obema. Mais c'est, je crois, le sens et l'esprit de l'œuvre qu'on retrouve plutôt que son simple reflet. Les conditions socio-spatiales, le contexte historique sont bien sûr très différents entre le XVIIe siècle et le XXe siècle. Des points communs entre l'œuvre d'Obema et celle de Cartier-Bresson sont néanmoins apparents. Et mis en lumière ce que je nomme le principe d'interspatialité, à l'instar de l'intertextualité en critique littéraire. Je pars d'un constat. Un espace représenté, dit, écrit, est toujours relié, de diverses manières, à d'autres représentations de l'espace. Je pourrais dire que l'art est un dialogue d'espace, ou plutôt un dialogue d'écriture spatiale. La représentation d'un espace quel qu'il soit fait appel à des références sous des formes diverses. Ces référents peuvent être des citations spatiales ou des allusions à des lieux. L'un des exemples les plus simples pourrait être pris chez un Gérard de Nerval mélancolique qui voit le lac de Genève comme l'image affaiblie du golfe de Naples dans son voyage en Orient. Je pense que l'interespace est indissociable de la figure géographique, car la figure porte toujours en elle ce que j'appelle des indices de spatialité repérable. Parce qu'elle a aussi l'avantage d'avoir un sens précis et constant d'une époque à l'autre. C'est pourquoi on ne peut, selon moi, traiter d'interspatialité qu'à partir des figures géographiques qui sont des médiateurs indispensables. L'étude du tableau d'Obema montre comment la figure du carrefour peut être un prétexte à géométrie paysagère, tout en étant liée à une démarche rhétorique. Je vous propose maintenant une autre œuvre que je choisis volontairement dans le XVIIe siècle. Donc ça, c'était le croquis. La suivante, s'il vous plaît. Oh là, très, pas très belle, mais... Une œuvre que je choisis volontairement dans le XVIIe siècle pour accroître la cohérence de ma démonstration. L'étude de ce deuxième exemple va nous permettre de découvrir un autre usage de la figure du carrefour. Un usage beaucoup plus métaphorique et symbolique, voire allégorique. Ce tableau... Oui, c'est mieux. Ce tableau est de Nicolas Poussin, 1594-1665. Il date de 1648 et s'intitule « Paysage avec un homme se lavant les pieds à une fontaine ». Il se trouve, lui aussi, à la National Gallery de Londres. Permettez-moi d'abord de vous le décrire. Il s'agit d'un paysage pittoresque, selon l'expression consacrée. Il met en valeur un espace humanisé. À l'arrière-plan apparaît une ville au pied d'un petit massif montagneux. Elle est ici, croyez-moi sur parole. Poussin peint certainement ce paysage pittoresque à partir d'études prises sur le vif dans la campagne romaine. Au premier plan, deux monuments de pierre se répondent symétriquement. À gauche, une fontaine avec une large vasque. À droite, ici, une colonne à demi cassée, une colonne à l'antique, recouverte de végétation, qui est sur un piédestal de marbre. Six personnages sont représentés. Un homme barbu, vêtu d'une toge à l'antique, se lave les pieds à gauche. Un couple assis discute au pied de la colonne à droite. Une lavandière se déplace sur le chemin principal avec un panier de linge sur sa tête. Un personnage en rouge s'éloigne au plan moyen. Il est ici, on voit très peu. Et pour finir, un personnage est ici, allongé au pied de l'arbre. La composition s'appuie... c'est très vilain, voilà, c'est mieux. La composition s'appuie sur deux chemins nettement dessinés, comme vous le voyez sur ce croquis. Le principal, le plus large, est celui sur lequel marche la lavandière. L'autre, perpendiculaire, mène à la fontaine en longeant la colonne antique. Le carrefour de ces deux chemins est un élément structurant de la composition. Il y a aussi un troisième sentier qui est discrètement figuré ici. Il est en courbe et s'éloigne vers la forêt. Le carrefour est visiblement utilisé comme support compositionnel, ou pour parler plus simplement, comme un outil de géométrie. Vous constatez, comme moi, que cet usage de la figure géographique est proche de celui fait par Obema. Poussin n'a cependant aucune ambition naturaliste. L'idée même de représenter le carrefour dans une seule démarche topographique, comme le peintre hollandais, ne peut que lui être étrangère. La figure du carrefour a ici une autre valeur intrinsèque que je vous propose de découvrir. Voici un détail du tableau. À bien le regarder, ce détail, on distingue une curieuse figurine fixée à l'arbre qui est au centre de l'œuvre, juste au-dessus de l'homme allongé. L'homme allongé, on le voit très peu, mais je pense que vous pouvez le discerner ici. La main droite de cette petite statue indique la direction du village tout proche. Le mot figurine est un emprunt à l'italien figurina, vers 1578. Il signifie « petite figure en peinture » ou « petite statuette ». Au-dessus de cette figurine est accrochée une croix blanche. Cette croix est comme un reflet du carrefour lui-même, qui serait ainsi doublement figuré dans le tableau, selon un ingénieux procédé de mise en abîme. J'ajoute que la position de la figurine est celle inversée de la lavandière, comme le montre le croquis. La forme du sentier en courbe à gauche de la jeune femme est aussi un reflet de celle de la cordelette blanche qui relie la figurine au linge accroché à l'arbre. Le tout est produit par un habile jeu de miroir. La croix est un évident symbole christique. Il est traditionnel, pour des raisons relevant autant de la religion que de la superstition, de planter des croix au carrefour des chemins. La figurine pourrait être, pour des raisons similaires, une représentation de la Vierge. J'avance cependant une autre hypothèse. Il me semble que la présence de la figurine de la croix pourrait être une évocation de cultes antiques. Poussin est un fin connaisseur de la civilisation latine. Il sait que les Romains considèrent le carrefour comme un lieu symbolique du passage d'un monde à l'autre, de la vie à la mort. Lieu des apparitions, le croisement des chemins est tenté par des esprits de toutes sortes, généralement redoutables pour l'homme. Par des offrandes et des sacrifices, les Romains se concilient la protection des divinités locales, des lares compitales, c'est-à-dire les lares des carrefours. C'est pourquoi les Romains élèvent des statues, des temples ou des autels au croisement des routes. C'est là qu'ils prient et méditent sur le destin mortel de l'homme. C'est ce que pourrait justement faire l'homme en bleu couché au pied de l'arbre. Ainsi Poussin évoque, selon moi, à la fois les coutumes chrétiennes et celles de l'Antiquité païenne. La présence dans le tableau d'une fontaine d'eau vive au carrefour est-elle aussi significative? Elle pourrait être une référence à la mythologie biblique, celle de la fontaine de vie qui jaillit au pied de l'arbre, au centre du paradis terrestre. Cette fontaine se divise, on le sait, en quatre fleuves, coulant vers les quatre points cardinaux du globe. Dans un triple emboîtement, Poussin associe la fontaine, qui suggère les quatre fleuves et donc les quatre points du monde, aux quatre bras de la croix et aux quatre voies du carrefour. Apparaît ainsi un système symbolique complexe qui ne doit rien au hasard. Dans ce tableau, le carrefour est une interface entre la forêt et l'espace humanisé. La forêt, c'est la selva oscura, la forêt obscure, telle que l'a décrite Dante dans le premier chant de l'Enfer, dans la Divine Comédie, au début du XIVe siècle. Dante, je le précise, est l'un des auteurs italiens que Poussin admire et lit le plus. Voici l'extrait du texte. « Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. » Voici la traduction. « Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvai par une forêt obscure car la voie droite était perdue. » La suite est très intéressante. « Ah, dire ce qu'elle était, chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. » À l'opposé de la selva oscura se trouve l'espace humanisé. C'est le lieu où la lumière surgit, c'est-à-dire la raison personnifiée par Virgile dans le même poème de Dante. La selva oscura n'est pas représentée dans ce tableau de Poussin. Le peintre laisse au spectateur le soin de l'imaginer. Elle serait au bout du sentier, à gauche de la lavandière, elle est dans un procédé elliptique, suggéré, déductible par récurrence. Au spectateur lettré du XVIIe siècle, de comprendre les choix esthétiques de l'artiste. Dans ce paysage, la figure du carrefour prend encore une autre connotation. La scène idyllique représentée calme, voluptueuse. La présence de l'eau pure de la fontaine est apaisante. L'acte du lavement rituel des pieds est hautement symbolique. Tous ces éléments sont des signes explicites de ce qu'est la lumière aux yeux de Poussin, qui est un peintre apollinien par excellence. Cette lumière est celle de Virgile, tout autant que celle de la civilisation moderne, une civilisation fondée sur le respect des règles esthétiques héritées de l'Antiquité et renouvelée pendant la Renaissance. En 1642, soit quelques années avant la réalisation de ce tableau, Poussin décrit ainsi sa démarche esthétique. Je cite « Mon naturel me contraint à chercher et à aimer les choses bien ordonnées, fuyant la confusion qui m'est aussi contraire et ennemie comme est la lumière des obscures ténèbres. » Représenter la figure du carrefour permet à Poussin d'exprimer son rejet des obscures ténèbres, celle des barbares, J'emploie ce mot dans le sens initial qu'il a dans l'Empire romain pour qualifier ceux qui vivent au-delà du limès de l'Empire. Cette forme d'anti-monde non romanisé est aux yeux de Poussin une métaphore de la confusion, pour reprendre le mot qu'il emploie. C'est une image du chaos, de l'antithèse diabolique de l'harmonie et de l'ordre. C'est l'inverse de la dirita via. L'expression dirita via a chez Dante, comme chez de très nombreux artistes depuis le Moyen-Âge, le sens du droit chemin auquel j'ai déjà fait allusion tout à l'heure. Ce chemin que le chrétien ne doit pas quitter s'il veut aller au ciel. Selon moi, Poussin fait aussi de la dirita via, de manière allégorique cette fois, le désir d'harmonie spirituelle et esthétique de l'artiste. La figure du carrefour est ici montrée par Poussin comme un attracteur d'équilibre. J'emprunte ici volontairement une formule d'Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie en 1977, spécialiste de la théorie du chaos. Le carrefour serait alors une figure de résistance. Résistance à une transition toujours possible vers le chaos. Résistance à une dérive redoutée vers le désordre et la disharmonie jugée par Poussin comme contraire à l'art. Une vingtaine d'années avant le début de la querelle des anciens et des modernes, Poussin semble, à l'aide d'un subtil usage rhétorique de la figure du carrefour, prendre prophétiquement position pour cela. J'ajoute qu'on entend un écho de cette posture de Poussin jusqu'au XXe siècle. Igor Stravinsky, alors dans sa période néoclassique, écrit dans son livre « Poétique musicale » publié en 1945 que « l'art est le contraire du chaos ». Il déclare ceci 32 ans après un sacre du printemps qui aurait pu laisser penser l'inverse aux mélomanes, il est vrai. On trouve la même idée chez Balthus, qui signifie sa méfiance de la modernité chaotique aux spectateurs d'une exposition qui lui est consacrée à Beijing, en Chine, en 1995. Je le cite, « Regardez mes tentatives avec bienveillance, car c'est le travail d'un homme qui cherche à sortir du chaos qui règne sur la fin de ce XXe siècle. » Cette ambition esthétique n'est évidemment pas partagée par tous les artistes du XXe siècle. Francis Bacon, comme d'autres, considère le chaos comme l'expression d'un désir d'art. Il y voit aussi un moyen de créer. Poussin utilise la figure du carrefour comme un élément déterminant dans le paysage, avec un homme se lavant les pieds à une fontaine. Il y expose son goût pour une représentation picturale à la fois rhétorique et idéalisée du réel. Il en fait le médiateur d'une culture classique qui s'appuie sur l'Antiquité. Il lui donne aussi, et surtout, une valeur symbolique et allégorique fondamentale. Je vous propose, en regard, une œuvre du XXe siècle, d'Antonio Seguì. Dans cette œuvre, la figure du carrefour est investie de nouvelles valeurs. Elle est l'objet d'un renversement significatif qui est lié aux interrogations de l'art dans le monde contemporain. Le carrefour est ici lié au thème de l'incommunicabilité entre les hommes, un thème qui est fréquent dans toutes les formes d'art au XXe siècle. C'est en 1978 qu'Antonio Seguì, artiste argentin, peint le parc aux aveugles. C'est un étonnant tableau. Il est rigoureusement carré, de 2 mètres sur 2 mètres. Il se trouve au Musée national d'art moderne à Paris. Il représente 11 personnages masculins séparés les uns des autres. Ils marchent en s'évitant grâce à leur canne blanche sur les chemins d'un parc urbain. Les couleurs, vert sombre, ocre brun, gris, sont pauvres et fades. Elles traduisent une certaine mélancolie. Les arbres du parc sont presque réifiés. Ce sont des motifs disposés comme le seraient les éléments d'une nature morte. Il me semble que le parc aux aveugles de Seguì pourrait être influencé, entre autres, par 2 artistes. Le flamand Peter Bruegel, dit l'ancien, et Charles Baudelaire. Bruegel peint la parabole des aveugles en 1568. Cette détrempe sur toile de lin illustre une parabole biblique bien connue. Cette parabole, présente dans l'Évangile selon saint Matthieu et l'Évangile selon saint Luc, est ainsi formulée. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ce sont les pharisiens que Jésus assimile aux aveugles. Une copie de l'œuvre de Bruegel est au Louvre. Elle est le fruit du propre fils de l'artiste Bruegel le Jeune. C'est face à elle que Baudelaire écrit son poème intitulé justement « Les aveugles ». Ce texte appartient au tableau parisien des Fleurs du Mal, publié en 1857. En voici un extrait qui pourrait aisément, me semble-t-il, être rapproché du tableau de Séguy. Il traverse ainsi le noir illimité, ce frère du silence éternel. Ô cité, pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles, éprise du plaisir jusqu'à l'atrocité, vois, je me traîne aussi, mais plus qu'eux hébétés, je dis, que cherchent-ils au ciel tous ces aveugles ? Je me suis permis de rétablir la rime entre beugles et aveugles. Le tableau de Séguy est structuré, vous le voyez, en bandes horizontales qui sont superposées. Leur inclinaison vers la droite donne aux spectateurs une sensation de déséquilibre. Les bandes sont linéaires, à l'exception de la plus élevée. Cette dernière est arrondie, comme dans les représentations du ciel dans les enluminures du Moyen-Âge. La plus basse est aussi légèrement convexe dans sa partie droite. Les personnages marchent sur deux chemins parallèles. Ils les parcourent de droite à gauche ou de gauche à droite. Le refus de la perspective amène Antonio Séguy à composer le parc aux aveugles par plans successifs. Le spectateur ne peut pas, dans un premier temps, affirmer avec certitude que les chemins, sont sur un même plan horizontal. Ils pourraient être superposés. Seul le mouvement de l'un des aveugles, qui transgresse la dynamique générale et quitte le chemin supérieur pour rejoindre le chemin inférieur, laisse deviner qu'ils sont disposés horizontalement. Le déplacement de ce personnage pourrait être assimilé à un clinamen. On peut donner à clinamen le sens de déviation, manquement face à la règle, écart signifiant par rapport à la contrainte. Le mot est très utilisé par les membres de l'Oulipo. L'ouvroir de littérature potentielle est un groupe littéraire bien connu, créé en 1960. Il se donne pour but de réintroduire la notion de contrainte formelle dans la création littéraire. C'est une sous-commission du célèbre collège de pataphysique, initialement créé par Alfred Jarry. Revenons à l'œuvre de Séguy. Le silence qui y règne paraît total. On peut pourtant imaginer que les quatre bandes horizontales ressemblent à une portée musicale. Les personnages seraient alors des notes. Il y aurait la partition d'une monodie avec 6 fois Do et 4 fois Fa. Seul un La, le clinamen dont je parlais, est isolé comme en décalage graphique et sonore avec l'ensemble. Cela est comme suspendu, car une note en musique, une note seule, est toujours suspensive en musique. Cette construction sonore rappelle, pour moi, les expériences de musique concrète de John Cage. John Cage est le premier au XXe siècle à introduire les notions de hasard et d'indétermination dans la composition et l'interprétation musicale. C'est lui qui développe le concept de musique répétitive. On pourrait peut-être entendre aussi, dans les deux notes du tableau de Séguy, un écho lointain du fado. Ce chant traditionnel portugais est empreint de nostalgie et de mélancolie. Le fado, comme métaphore sonore du destin, car le mot dérive du latin fatum, qui veut dire destin. On observe que les chemins figurés sur la toile semblent se prolonger hors du tableau. On pourrait peut-être remettre le croquis, s'il vous plaît, en arrière. Il continue hors champ, pour utiliser un terme d'analyse filmique. Non, c'était avant, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien. Non, c'est pas bien. Donc les chemins figurés sur la toile semblent se prolonger hors du tableau. Ils continuent hors champ, disais-je, pour utiliser un terme d'analyse filmique. L'œuvre est ainsi traversée par une puissance de décadrage qui l'ouvre sur un espace illimité. Mais ce qui frappe, c'est que les chemins ne se croisent en aucun point du tableau. La représentation de deux voies suppose généralement dans l'art que le croisement de celles-ci soit apparent dans l'espace du tableau. Le croisement peut être aussi suggéré hors de la toile. Or, il n'en est rien dans Le Parc aux aveugles. L'absence du carrefour gêne le spectateur du tableau, même s'il peut comprendre assez vite pourquoi l'artiste choisit de ne pas le représenter. Le manque contribue donc paradoxalement à un surcroît de sens. Séguy veut dénoncer l'incommunicabilité entre les hommes et leur cécité spirituelle. Il représente une expérience appauvrie de la vie, il donne une vision dérisoire et absurde du monde, il rejoint en cela Beckett. Beckett, influencé par Kafka et Joyce, décrit une humanité dégradée qui reflète une forme de réduction ontologique, notamment dans « En attendant Godot » publié en 1952. Séguy atteint son objectif en transgressant la représentation conventionnelle du carrefour. Transgresser, c'est à la fois reconnaître et inverser. Dans une sorte de contradiction logique, il présente la figure et la nie tout à la fois. Il pourrait s'agir d'un cas extrême de représentation du carrefour, sa disparition. Alors même que tout est mis en œuvre pour que le spectateur l'attende inconsciemment et la cherche du regard. Ce procédé rappelle celui d'un roman oulipien de Georges Perec, La disparition, en 1969. Dans ce texte, vous le savez, Perec n'utilise jamais la lettre E. Je ne sais pas si Séguy a lu Perec, mais peut-être aura-t-il un jour la même idée que lui lorsqu'il écrit Les Revenantes en 1972. Dans ce livre, Perec n'utilise cette fois que la voyelle E dans une démarche lipogrammatique presque dadaïste. Séguy peindrait alors un parc aux voyants ou pimpiens qui ne serait composé que d'un maillage de voix qui se croisent. L'adjectif oupimpien réfère à l'oupimpo, ouvroir de peinture potentielle, créé en 1980. Cette association d'artistes applique à la peinture et aux arts graphiques des méthodes d'expérimentation similaires à celles de l'oulipo. Cette démarche oupimpienne pourrait être poursuivie jusqu'à l'excès. Le peintre représenterait alors un quadrillage tellement dense et complexe qu'il interdirait paradoxalement toute communication. Séguy pourrait ainsi rejoindre l'argument d'une nouvelle de Borges, son compatriote, aveugle depuis le milieu de sa vie. Je pensais à un labyrinthe de labyrinthes, un sinueux labyrinthe croissant qui embrasserait le passé et l'avenir et qui impliquerait les astres en quelque sorte. Ce texte est extrait du « Jardin au sentier qui bifurque », publié dans le recueil Fiction en 1941. Le labyrinthe est une suite de bifurcations. Il se présente comme le modèle de l'infinité des chemins et des possibles où toujours quelque part l'on se perd, faute de vue d'ensemble. Je pense que le labyrinthe ne peut pas être considéré comme une figure de l'échange. Je le considère plutôt comme une contre-figure du carrefour. C'est pourquoi s'il l'utilisait, Antonio Séguy atteindrait une deuxième fois son but initial. Il dénoncerait l'incommunicabilité entre les hommes en contournant et en détournant à nouveau la figure du carrefour. Notre œil se perdrait alors dans la toile. Ce n'est plus la monodie du parc aux aveugles que nous verrions et que nous entendrions, mais la polyphonie infinie du labyrinthe, un labyrinthe qui s'assimilerait à une cacophonie visuelle et sonore. Le tableau de Séguy nous permet de constater combien l'absence de la figure du carrefour est signifiante. La non-représentation de cette forme de l'échange surprend le spectateur. La disparition de la figure est un procédé rhétorique singulier. Il s'agit certes d'un usage extrême de la figure propre à un artiste du XXe siècle. Je pense cependant que cet usage du carrefour serait incompréhensible si le peintre et le spectateur n'avaient en tête un ensemble prérequis, culturellement hérité, de diverses représentations du carrefour. Le spectateur et l'artiste disposent d'images mentales qui interviennent sur leur lecture. La création et la réception de l'œuvre sont inséparables, là encore, d'une interspatialité qui apparaît comme un jeu de miroir. Chez Obema, chez Poussin comme chez Segui, la figure du carrefour est liée à une démarche raisonnée. Haute figure, hyper figure, le carrefour est par nature fonctionnel. Les artistes utilisent la figure géographique du carrefour en jouant du réel, de l'imaginaire et du symbolique, en jouant du sens et des sens. Ce jeu subtil est source de richesse créative dans la production occidentale. Utilisée pour convaincre, la figure géographique se doit d'être visiblement persuasive. C'est un outil qui permet de s'exprimer de façon à la fois libre et codifiée. De façon libre, car l'artiste n'est pas tenu d'y recourir pour communiquer. De façon codifiée, car chaque figure constitue une structure connue, repérable et transmissible. Polysémique, polyvalente, la figure géographique n'est jamais un détail. Alors que le détail peut brouiller la vue, égarer, distraire, la figure géographique participe d'une vision générale. Elle est ce que je nomme un lieu de passage. Elle donne la possibilité à l'artiste, comme au spectateur de l'œuvre, de passer d'un espace à l'autre, de passer aussi du réel à l'imaginaire. Ce mouvement peut apparaître de prime abord comme soumis à la seule subjectivité. La subjectivité de l'artiste conjuguée à celle du spectateur. Ce mouvement est pourtant doté d'une valeur et d'une fonction profonde qui lui donne une forme d'objectivité. Toute la complexité de l'analyse des figures géographiques dans l'art tient dans la confrontation entre le réel et l'imaginaire, dans l'épissure entre le subjectif et l'objectif. Étudier les figures géographiques dans l'art, c'est construire un pont entre plusieurs manières de concevoir la spatialité. Ma démarche nécessite un certain nombre d'approches que je pourrais qualifier de perpendiculaires plus que de parallèles. Elle m'amène à rencontrer les problématiques d'autres domaines d'études que celui de la géographie, histoire de l'art au premier chef, mais aussi histoire, philosophie, sociologie, sémiologie, musicologie et d'autres encore. Ma démarche est délibérément placée à l'intersection, au croisement de plusieurs disciplines. La méthode que j'utilise se fonde sur une dialogique pensante. J'emprunte ici une expression néoplatonicienne proposée par Edgar Morin. L'acte géographique se doit d'être critique. Il consiste ici à proposer une théorie des figures dans l'art. Il faut peu de mots pour exprimer l'essentiel. Il nous faut tous les mots pour le rendre réel. Cette pensée d'Éluard guide ma recherche. Il s'agit pour moi de produire une pensée sur l'art avec la géographie. La géographie doit être spéculative, au sens philosophique, et imaginative pour présenter et représenter le monde de l'art. L'ambition ultime serait de concevoir une géographique comme Aristote pense la poétique. Le géographe de l'art que je suis, j'emploie géographe de l'art comme on parle d'historien de l'art, le géographe de l'art aurait ainsi pour inestimable fonction de rendre intelligible un sens toujours à découvrir, selon l'expression de Gaston Bachelard. L'accomplissement de ce projet ne peut passer, je crois, que par une interprétation raisonnée des figures. Je suis persuadé que les figures géographiques dans l'art sont fertiles. Merci beaucoup.
À propos de Dante, j'ai été un peu perdue, la Divine Comédie. Et quand j'ai vu la figure féminine devant le carrefour, enfin au carrefour, j'ai pensé naturellement à Beatrice. Et Beatrice, avant l'enfer, je suis très très perplexe. Et je voulais savoir si cette figure a un sens. Et je voulais savoir aussi s'il y a un livre, enfin une étude sur Poussin et Dante, parce que ce saut du Moyen-Âge au classicisme m'a un peu égarée, je dois dire.
Bien, alors, libre à vous de penser que c'est Béatrice, effectivement. L'interprétation est toujours en partie subjective. Hein. L'appel à Dante fait partie, si vous voulez, d'une sorte de réseau complexe de référence à la culture occidentale. Il me semble qu'il y a des éléments clés, Dante en fait partie, que Poussin utilise à plusieurs reprises dans ses réalisations artistiques. Faire appel à Dante ne signifie pas coller, pardonnez-moi l'expression, complètement le poème de Dante au tableau de Poussin, ou inversement. Il est fort probable, selon moi, que cette femme est plutôt une allégorie de la beauté classique, qui reprendrait les canons, hein, au sens antique du terme, à la fois de la beauté féminine, mais aussi de l'art lui-même. Alors, voyez que nos interprétations peuvent diverger, évidemment, mais je crois que ça ne changerait pas le sens général. En ce qui concerne un livre qui croiserait une analyse de Dante et une de Poussin, je n'en connais pas, je propose des interprétations qui sont éminemment personnelles. Peut-être ce livre reste-t-il à écrire.
Je crois que c'est Kandinsky qui a peint, il y a presque 100 ans, carré blanc sur fond blanc. Et la vraie signification, ce serait peut-être carrefour blanc sur fond blanc, non?
Alors, vous avez là, vous voyez, vous allez plus vite que ma pensée. Je ne pense pas qu'on puisse déclencher de nouveau l'appareil, mais je pensais en conclusion vous montrer la croix noire de Malevitch, puisque c'est rigoureusement un carrefour réduit à sa plus extraordinaire simplicité, une croix posée sur un fond blanc. Donc on serait là dans l'abstraction de l'abstraction. Cependant, pour nuancer, je ne suis pas absolument certain que Malevitch ou Kandinsky, dont vous parliez, utilisaient la figure géographique dans le sens qui pourrait, si vous voulez, être rattaché à ce que j'ai présenté aujourd'hui. Mais vous avez parfaitement raison, l'abstraction n'est pas à l'écart de l'usage de la figure. En fait, je pensais, je vais vous le décrire donc, hein. Vous savez, New York City 1, vous connaissez certainement cette toile abstraite de Mondrian qui se trouve à Beaubourg. C'est une toile de 41-42. Elle m'a beaucoup intéressé, j'en parle dans le livre qui va sortir, parce que Mondrian, lorsqu'il l'a peint, est à New York, il est réfugié hein, pendant la guerre, et il choisit de nommer cette grille qu'on ne verra pas, qu'on verra peut-être, cette grille colorée, de la nommer avec le nom de la ville qu'il habite. Beaucoup ont vu dans cette toile, que vous avez certainement en tête, une simple reproduction du plan damier de la ville de New York. C'est en partie vrai. Et si on va dans cette direction, on s'aperçoit que le plan damier a pour caractéristique de multiplier les carrefours. Mondrian, en présentant un unique plan damier multipliant les carrefours, serait là dans un procédé qu'on pourrait qualifier d'anaphorique, pour continuer dans la rhétorique, où il présenterait tant de carrefours que tout serait carrefour, et que la ville de New York elle-même, métaphoriquement, voire allégoriquement, serait carrefour, carrefour du monde, carrefour de la civilisation. Ça a parfois été souligné. Il me semble qu'il y a d'autres hypothèses. Parce que ce qui intéresse Mondrian, abstrait, hein, je vous réponds toujours, monsieur, dans la figure du carrefour, c'est la manière dont le carrefour peut rejoindre ses préoccupations de peintre abstrait, par la forme, par la figuration et l'épaisseur. Le tableau de Mondrian, comme souvent dans l'abstraction et on l'oublie, a une épaisseur conceptuelle du plan. Ça n'écarte absolument pas le carrefour, parce que comme vous le savez, il suffit de vous déplacer dans Paris, vous pouvez avoir des carrefours à plusieurs étages. Hein. Il y a des carrefours dans le métro, que je sache, il y a des carrefours routiers au-dessus, des rues, et puis il peut aussi y avoir des carrefours aériens. D'une certaine manière, je crois que Mondrian, peintre abstrait, avait senti cette puissance possible de la figure en la représentant de manière abstraite. C'est l'esprit aussi de Malevitch. Et vous citez Kandinsky, c'est un artiste et un théoricien que j'utilise beaucoup, parce que je pense qu'il est clair, hein, profondément, la peinture abstraite du premier XXe siècle.
Bonjour. Qu'est-ce que le géographe de l'art pourrait donner comme clé concernant l'art brut, je pense en France au facteur cheval, par exemple?
Bon, je vous dirais très franchement que, compte tenu de mon sujet, l'exhaustivité n'existe pas, ou alors je serais complètement fou. Le facteur cheval, les œuvres du facteur cheval ne font pas partie de mon corpus. Donc j'ai un peu de difficulté à vous répondre, comme ça, de but en blanc. Hein. Moi, je pars d'un principe qui est une grande ouverture. Mon travail, j'allais dire, c'est une recherche ouverte au sens Umberto Eco, vous savez, parle d'œuvre ouverte. Alors, ça peut paraître un peu présomptueux, ça ne l'est pas. En fait, c'est plutôt signe d'humilité. Je crois qu'il faut aller chercher dans toutes les formes d'art à valider la théorie que je propose. C'est l'enjeu, hein, que je me suis fixé. Alors, je ne connais pas bien le facteur cheval. Je pourrais effectivement m'y attacher et je vous donnerai la réponse dans une prochaine conférence.
En fait, ma question adopte un point de vue plus historique que géographique, c'est j'aimerais savoir si l'homme a de tout temps a toujours peint des paysages, ou est-ce que la mise en valeur de l'organisation spatiale telle que vous nous l'avez montré est une acception moderne.
Alors c'est une très bonne question, parce que il y a une histoire du paysage qui existe, hein, qui est bien solide en France dans l'histoire de l'art. Bon, sur le paysage, on peut dès l'époque romaine, hein, dès l'Antiquité romaine, voire des représentations. C'est-à-dire que la volonté de représenter le milieu, pour prendre un terme géographique, l'espace, l'environnement, pour prendre un terme très à la mode que je n'apprécie guère personnellement, est une très vieille ambition de l'homme, assurément. Hein. Je m'arrêterai, en ce qui me concerne, à l'Antiquité romaine. Hein. Je n'irai pas voir auparavant, mais pourquoi pas. Cette idée de représenter l'espace est-il lié systématiquement à la figure? Les figures de l'échange sont extrêmement nombreuses, et je crois qu'il y a, je l'ai dit au début de ma conférence, il y a des éléments invariables. Je crois qu'il y a là une part structuraliste, hein, pour employer le mot, à la Lévi-Strauss, qui m'amène à penser qu'il y a des éléments que je pourrais qualifier d'universels, comme Lévi-Strauss le faisait, hein, d'universels, d'invariants dans la société ou les cultures que j'ai étudiées, c'est-à-dire la civilisation occidentale de la Renaissance à aujourd'hui. Hein, je me suis contenté de 5 siècles, pardonnez-moi. Il me semble que ça n'exclut en rien des évolutions, évidemment. Hein. Il ne faut pas être trop dogmatique. Hein. Je ne suis pas, si vous voulez, en train de vous dire que rien n'a changé, que les valeurs sont les mêmes, ce serait faux. Il y a des évolutions, mais il y a aussi des éléments constants qu'on peut retrouver de la Renaissance à aujourd'hui, et probablement plus avant dans le temps. N'oublions jamais que la diachronie est une succession de synchronies. Moi, je pense qu'on peut, tout en étudiant des invariants, ne pas faire l'économie de contextualiser les œuvres, c'est absolument inévitable de toute façon, et d'aller chercher les variances. Et je vous invite, jeune homme, à le faire, pourquoi pas, à mes côtés.
Oui, bonsoir. Effectivement, j'ai apprécié vos derniers qualificatifs de géographe de l'art et d'interprétation raisonnée des figures. Et c'est vrai que l'interprétation du parc aux aveugles est intéressante autant on voit assez rapidement les signes d'incommunicabilité par ces allées. Par contre, au niveau de la partition, ou du moins ça me paraît plus original. Alors je voulais savoir, est-ce que ces interprétations sont extrêmement personnelles ou est-ce qu'elles sont partagées par, je ne sais pas, une association des géographes de l'art? Est-ce que justement vous discutez avec d'autres personnes de ces interprétations, car on ne va pas demander à Poussin ce qu'il a pensé faire. Par contre, peut-être que c'est Guy a laissé des traces un petit peu et a montré auprès d'amis justement ce qu'il voulait dire par son tableau.
Merci. Alors, j'ai bien compris le sens de votre question. Je vais y répondre en plusieurs points. D'abord, c'est Guy qui est toujours vivant. Je ne l'ai pas rencontré. Je n'ai pas eu l'occasion de lui proposer mon interprétation. Personnellement, je crois que l'œuvre d'art n'appartient plus à l'artiste une fois qu'elle est rendue publique. L'œuvre d'art, elle appartient à tous et elle appartient avant tout au spectateur que je suis. Je suis avant tout un spectateur, c'est-à-dire un amateur d'art, amateur au sens le plus fort, hein, amateur, hein, celui qui aime sans pratiquer. Mon interprétation du tableau en question est très personnelle. A-t-elle été confrontée à d'autres discours ? Non. Pourquoi ? Parce que cette confédération, fédération, association de géographes de l'art n'existe pas, et je pense que vous le savez, monsieur. Je suis invité ici parce que je suis à l'interface de plusieurs disciplines, et en l'occurrence, je suis un peu seul, pour l'instant, dans ce champ de recherche. Tant il est vrai que l'art a pu intéresser quelques géographes, c'est vrai, je ne suis pas le premier. Mais quand on dit l'art, on réduit souvent, dans le champ de la géographie française, à la littérature. Et puis on réduit parfois au roman. Et puis on réduit parfois, allez, hors micro, à Julien Gracq seul. Parce que vous savez, Julien Gracq a un grand avantage. C'est qu'il est à la fois écrivain et géographe. Monsieur Poirier, vous le savez certainement, a enseigné pratiquement toute sa vie la géographie à Paris. C'est Julien Gracq dont je parle. Donc c'est très rassurant, si vous voulez. On confronte un discours géographique sur une œuvre littéraire qui a été produite par un géographe. On est dans notre monde. Personnellement, je pense qu'il faut aller plus loin, de deux manières. La première, c'est aller confronter la géographie à d'autres formes d'art, sinon à toutes. L'ambition est extraordinaire, elle est peut-être folle, mais essayons. Deuxièmement, mon ambition, c'est de croiser les arts. Je crois beaucoup à cette géographie de l'art, hein. Je pense qu'il faut vraiment promouvoir le terme, qui pourrait être une géographie des arts, avec l'idée non pas de faire un catalogue, aujourd'hui je parle de peinture, demain je parle de Dante, et ainsi de suite, hein. Je ferai une série de conférences sur une année à l'UTLS. Je pense qu'il faut croiser les formes d'art pour aller plus loin. Quand j'ai utilisé, je réponds en même temps à notre première question. Quand j'utilise Dante et que je parle de Poussin, pour moi, ça n'a rien de superflu. Je suis là dans un croisement que je qualifierais de nécessaire, nécessaire à l'interprétation. Alors, il est vrai que ce champ est nouveau, qu'il faut aller plus loin, et comme je l'ai dit à la fin de ma conclusion, il me semble que la bonne entrée, c'est la figure géographique. Oh, il y en a certainement d'autres, je n'en doute pas. Mais je pense que c'est une entrée qui permet justement d'aller en profondeur dans l'interprétation des objets artistiques. Alors ce que je propose, c'est une science de l'art. Le terme n'est pas accepté par tous, mais je le propose quand même. J'interprète, j'essaie d'entrer dans le cinéma. J'ai fait, bon, vous verrez dans, si vous avez l'occasion de lire le bouquin, j'ai parlé de Bertolucci, d'un film de 1964 qui s'appelle « Prima della rivoluzione », avant la révolution, dans lequel on voit une utilisation extraordinaire du carrefour. Dans ce film, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir si vous ne l'avez pas vu, c'est un film en noir et blanc, hein, des tout débuts de Bertolucci, on voit la place Garibaldi. Vous savez, toutes les villes italiennes ou presque ont une place Garibaldi. La place Garibaldi de Parme, qui est le lieu même de l'introspection de Fabrizio, c'est-à-dire le héros qui est un petit bourgeois communiste, pas très bien dans sa peau, et qui est confronté à toutes sortes de douleurs. Bertolucci fait de la place vraiment l'expression, la métaphore du destin de Fabrizio. Alors, si j'ajoute, monsieur, bon, il le fait avec les moyens du cinéaste. Il y a notamment un extraordinaire panoramique à 360 degrés qui ferme la place, alors que la place est un carrefour, elle est donc ouverte, a priori. Bertolucci, par sa caméra, réussit à nous convaincre que la place est fermée. Et c'est évidemment Fabrizio qui est au milieu. Je disais qu'il est possible de confronter les arts. J'aime aussi cette idée de la confrontation. Comment ? Eh bien, peut-être d'aller chercher chez Stendhal, que Bertolucci connaît fort bien, Fabrizio Fabrice, Del Dongo, hein, vous voyez. Ce n'est pas, là encore, purement de l'imagination de ma part. Je crois que c'est fondé sur des choses très palpables. Hein. Moi, je crois à ce côté sensible du toucher, hein, que ce soit des mots ou de la musique. Alors, il y a un écueil à éviter dans cette démarche. C'est, je l'ai dit au début, je crois, c'est la surinterprétation. C'est-à-dire, je dérive, je glisse vers une sorte de poésie intérieure et me croit qui veut me croire. Peut-être certains d'entre vous ont pensé ça tout à l'heure, mais moi je crois qu'on peut échapper à cela. Comment ? En allant toujours jusqu'au bout des possibles. C'est-à-dire en allant contextualiser les œuvres étudiées, en allant collecter le plus d'informations possibles sur celles-ci, en allant jusqu'à peut-être essayer d'entrer dans la démarche sensible de l'artiste. Ce n'est qu'à ce prix, c'est ce que j'ai appelé tout au début la connaissance intime et sensible du corpus. Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut passer ensuite à ce que j'appellerais l'analytique, avec tout ce que ça peut avoir de compresseur, pardonnez-moi l'expression. Je fais une géographie singulière, c'est certain. Une géographie singulière qui est, je dirais, loin de tout dogma, de toute science désincarnée, voyez-vous, et peut-être aussi de tout, allez, pardonnez-moi l'expression, de tout géographiquement correct.
Vous avez utilisé la figure du carrefour pour illustrer votre exposé. Quelle autre figure géographique avez-vous étudiée ou envisagez-vous d'étudier ?
Excellente question. Il me semble que le carrefour est vraiment une hyperfigure. J'entends par là, et j'essaie de le prouver dans mes recherches, que le carrefour a une valeur de figure des figures, c'est-à-dire une sorte d'allégorie qui serait un appel aux autres figures. C'est pour ça que j'ai employé le terme « haute figure », un peu en reprenant, vous savez, le « haut lieu hein, » de Pierre Nora. Et il me semble qu'il y aurait concurremment la bifurcation, qui est très proche. La bifurcation, là encore, on est dans le réel le plus simple. Hein, vous allez sortir d'ici tout à l'heure, vous allez voir des carrefours, des bifurcations. J'espère qu'en sortant de la conférence, vous allez les regarder autrement. Mais si je devais résumer le carrefour, ce serait une croix. Si je devais résumer la bifurcation, ce serait un Y. Et la particularité de la bifurcation, c'est que lorsque l'on arrive d'un chemin, on doit obligatoirement choisir. C'est-à-dire qu'il y a là la crisis, de la même manière que dans le carrefour, et peut-être de façon plus accentuée encore. Parce qu'au carrefour, on va en général tout droit. Hein. Aller tout droit, ce n'est pas aller à droite, c'est aller « dreit », on disait en ancien français. Hein. C'est-à-dire, non pas aller à dextre, mais aller directement. Il y a souvent une voie orientée, hein, dirigée. Je préfère dire dirigée qu'orientée, parce que, vous savez, le mot orientée, on l'oublie toujours, ça veut dire tourner vers l'est, n'est-ce pas ? Alors, je trouve qu'il faut mieux éviter, quand on est géographe, de se tromper sur les mots. La bifurcation serait donc une remarquable figure à utiliser. Il y en aurait d'autres. Moi, je me concentre sur les figures de l'échange. Pourquoi ? Parce qu'elles me semblent porteuses de l'homme. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est les figures porteuses de l'homme qui intègrent le symbolique, qui intègrent la métaphore, l'allégorie et d'autres éléments rhétoriques éminemment liés au mythe et donc à la profondeur de l'homme. Donc, les figures de l'échange avant tout. Actuellement, je suis en train de travailler sur, c'est pour ça que la question du jeune homme m'a plu tout à l'heure, sur le paysage urbain et sa représentation du Quattrocento à aujourd'hui. Et j'y vois, j'allais dire, 1000 représentations des figures de l'échange, hein. Ce qui m'amène à avancer toujours. Moi, j'ai presque envie de vous dire, hein, on a un petit peu de temps. Ouais, oui. Non, pas trop. Mon travail, c'est, vous savez, Joyce, James Joyce, extraordinaire écrivain. Il qualifiait son travail, notamment le dernier roman qu'il a écrit, le tout dernier livre, je ne sais pas si je dois dire roman, qui s'appelle Finnegan's Wake. Il dit que c'était « work in progress », que c'était un travail en cours. Cette expression a fait florès depuis, on l'emploie un peu partout. Je crois que c'est ça que j'essaie de faire. Ou alors peut-être ce que j'appellerais un essai ininterrompu. Pardonnez-moi l'expression, mais essai ininterrompu. Un essai, si on remonte à l'étymologie, c'est ce qui permet de peser le sens des mots. Vous savez, l'essai, ça vient d'exagium, qui veut dire peser, enfin qui est lié au verbe peser. Et je crois que c'est un peu ce que j'essaie de faire. Peser sans cesse la valeur des œuvres, le poids des mots et celui des figures.
Merci, Monsieur Grison.
Merci à vous.